Alors, délire, je ne sais pas, c'est à la cité savante ici réunie aujourd'hui, et encore, d'en décider. On a donc un petit moment pour débattre, discuter. Ce qui me semble intéressant, notamment en fait, dans les deux exposés, c'est l'insistance mise sur le comparatisme. Méthode comparatiste qui était celle de Durkheim, que Bourdieu citait, enfin Bourdieu citait Durkheim, avec l'idée que c'est justement par un travail de variation entre les objets et sur les objets que l'on pouvait dégager des connaissances nouvelles, enfin se dépayser par rapport aux objets. Et alors là, puisqu'on évoquait ces souvenirs d'anciens, il me revient que Bourdieu disait toujours il faut avoir plusieurs objets, enfin il faut circuler comme ça pour justement ne pas avoir la nuque un peu trop raide d'avoir été fixé toujours sur le même objet. Voilà.
Juste un mot pour faire la liaison avec Charles Suau. Un petit souvenir, là aussi, mais en termes de construction d'objets, c'était intéressant. Quand j'ai publié dans Acte de la Recherche mon premier papier sur le communisme, dans Acte, et le seul d'ailleurs, le papier, à l'époque, Bourdieu était vivant, et donc il a accepté le papier, il a changé le titre, et surtout, il a fait une demande. Qui était vraiment typiquement une demande à laquelle je n'avais absolument pas pensé et qui est restée du coup un champ de recherche qui est toujours ouvert. Il a demandé que je compare les prêtres, les intellectuels communistes et les instituteurs. Et en fait, c'est ça le déplacement d'un sujet à un autre. Et de mon point de vue, c'est tout à fait fondamental comme hypothèse de recherche, puisque derrière, il y a une histoire particulière qui est celle de l'époque de l'enseignement primaire Jules Ferry, et une époque qui est celle où des grandes institutions recruteuses prélèvent sur les classes populaires leur... Donc on a des phénomènes, là, analogues, qui mériteraient... Il y a un bouquin à faire, enfin, il y a une recherche à faire. Mais là, ça pose à propos d'un problème, c'est qu'il faut avoir la culture pour le faire. C'est-à-dire, moi, je l'avais pas vu, parce que je connaissais rien à l'histoire de l'école à ce moment-là, et alors les curés, j'en parle pas. J'en connaissais certains, mais je n'avais pas. Mais donc, c'est un problème. Et voilà, c'est quand même une intervention de construction d'objets.
Alors, j'enchaîne rapidement. Chaque numéro d'acte, il n'y avait pas de numéro thématique. Alors, c'est intéressant de relire les titres donnés aux numéros, quand les titres sont apparus. Mais en tout cas, chaque numéro était un peu une aventure, c'est-à-dire. C'était pas des varias, c'était pas des numéros thématiques, mais c'était véritablement des expérimentations sur des objets, c'est-à-dire fabriquer quelque chose, fabriquer de la cohérence, comme l'exemple qui vient d'être donné
Il y avait quand même ici. Des numéros sur des thèmes. Là, il y avait deux numéros sur la représentation politique, mais lesquels ont contribué, comme par hasard, par un certain nombre de politiques.
Moi, je voudrais attirer l'attention sur justement un lieu de travail collectif qui était le séminaire. Rémi est là, il lançait quelque chose. Bon, parce que c'était des moments quand même extrêmement importants où on arrivait avec des choses à demi ficelées, quoi. Bon, et il y avait une très grande liberté de parole. On pouvait se hasarder à des choses très hypothétiques. Et, donc, moi, j'insiste là-dessus parce que, évidemment, une fois que le produit fait, et puis on a reproché après à la revue de trop se normaliser, de plus porter les marques. Hein, mais ce travail collectif. Et là, moi, je l'ai connu à différentes. Il s'est transmis cet esprit-là, quoi. Enfin, c'est pas qu'un esprit, c'était un réel travail de confrontation. Bon, que maintenant les labos, parce que là, c'est devenu plus commun parce qu'il y a les labos. Hein, donc normalement c'est le travail du laboratoire de faire ça. Mais c'est très intéressant parce que l'autre jour, on discutait avec des historiens et à l'idée. De faire un séminaire contradictoire en disant on va faire des topos puis on va leur foncer dedans comment ça, mais ça se fait pas. Alors, étonnant. En disant mais non, on écoute des communications sagement, cette idée de confronter, de co-construire quoi, ou de voire de déconstruire, était complètement c'est fou.
Hein. Non mais vos témoignages m'intéressent bien parce que d'abord on pourrait dire que je suis l'élève de la moitié ou de toute votre génération quoi. J'ai appris la sociologie avec vous en vous lisant ou en vous écoutant dans les séminaires, etc. Donc c'est encore une autre génération, de manière un peu insensible aussi, parce que d'un côté il fallait que je passe mes diplômes, donc je les passais, on peut dire ça. Puis d'autre côté je l'apprenais en vous écoutant, en allant suivre vos séminaires. Donc ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est l'espèce d'entreprise collective qui permet la construction d'objets, mais pas forcément, qui elle-même n'est pas complètement explicitement construite. Enfin, l'espèce de dispositif qui s'est construit, qui suppose aussi les politistes qui tout d'un coup disent, essayent de faire une révolution dans le sous-espace de la science politique en introduisant de la sociologie. Donc il n'y a pas un plan pédagogique ou je sais pas, politique préconçu qui dirait, ben voilà, comme ça, tout le monde travaillera bien. Et je pense que le plus difficile dans l'enseignement de la sociologie, le fait de faire de la sociologie, c'est de trouver ce milieu écologique, enfin ces milieux écologiques, pour parler un autre terme, ces espèces de sous-espaces un peu enthousiastes, à la fois enthousiastes, en partie sans concession, mais en même temps pas mortel si vous oubliez une citation ou je sais pas quoi. Donc quel inverse de fonctionnement des revues, inverse de fonctionnement des séminaires d'aujourd'hui. Enfin, pour ma part. Donc j'ai une nostalgie d'un monde que j'ai pas connu, en plus. Pas complètement connu. Oui, voilà. Donc je trouve que pour réfléchir à la notion de construction d'objets, il faut réfléchir à quoi, comment c'est possible. Et ça veut dire, est-ce qu'on a besoin de Bourdieu? C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'un porteur de charisme pour ça? Est-ce qu'on a besoin de personnes qui font le passage de la sociologie de Bourdieu à l'univers de la science politique, etc. Et comment on peut reconstituer ça? Voilà, je suis là aujourd'hui pour ça, en fait.
Voilà. Non, mais moi, je crois qu'il faut se méfier, enfin, suivre un précepte que Bourdieu énonçait souvent, méfiez-vous des noms propres. À commencer par celui de Bourdieu. J'ai insisté sur l'idée que, pour moi, Bourdieu, c'est un micro-groupe qui a évolué suivant les générations, etc. Mais c'est d'abord un groupe et un lieu d'échange, de confrontation. Par exemple, accepter, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, accepter d'avoir sa copie corrigée. Bon, projet de d'articles, etc. Retour par courrier, le mail n'existait pas. Les mots rayés, proposition de titre, vous devriez que, etc. Bon, ça a été l'objet parfois de fâcheries entre certains collègues et en disant moi on me fait pas le coup qu'est-ce que c'est que ça. Non mais autrement dit il y avait des actes, oui. Hein, des actes du métier basique basés sur la confiance, sur et puis sans détour quoi. Bon, alors ce qui rend service aussi, je vois dans la direction de thèse, pas dire avec 10 circonvolutions que c'est pas bien. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. À condition de reconstruire. Hein. Mais moi je trouve que, il y a un esprit d'école de vraiment. Alors là, on est vraiment dans la construction. Avec les mots, je pense qu'aujourd'hui, faut pas avoir non plus de nostalgie. Moi, j'ai pas de rapport nostalgique, hein, et je trouve que un espace qui n'a plus besoin de nom propre est sans doute plus mature que quand dans une thèse, il y a Bourdieu cité toutes les moi, ce qui me rend malade, c'est quand il y a des citations d'entretien. Et comme Bourdieu a si bien dit, etc., comme si Bourdieu avait décodé l'entretien C'est ahurissant quand on voit des trucs comme ça. Bon. Hein, non, mais autrement dit, il y a des effets de routinisation incroyables. Alors tout le monde est rassuré, j'ai cité Bourdieu. Bourdieu, c'est absurde. Et pourtant, oui. Dieu sait si on y a droit. Hein.
La question, elle est, oui. Quel est l'univers qui va fabriquer la conversion, enfin, qui va...
L'université.
Non.
Oui, mais non. Justement...
Ah bon. Ah bon? Non, mais je ne sais pas. Justement. Il faut bien des lieux. Non, vas-y.
Oui, je suis d'accord.
J'en sais rien.
À propos du sens de cette...
Très belle question.
À propos du sens de cette rencontre, toujours dans la rubrique mémoire, et Daniel, là aussi, pourra servir de témoin, je me souviens que dans les années 80 à Amiens, en Sciences Po, en première année, il y avait un cours, si mes souvenirs sont bons, en tout cas des TD, consacré à la construction d'objets, et où on filait aux étudiants un texte de Bachelin, un texte du métier du sociologue, un texte de Weber, etc., etc. Ça, c'est impensable de faire ça aujourd'hui. En tout cas, ça ne se fait plus. Donc pourquoi ? Moi, je laisse la question ouverte. Mais il y a bien une sorte de dissipation. Alors est-ce que c'est parce que ces problèmes de construction d'objets sont intériorisés par les jeunes chercheurs dans un autre rapport aux anciens ? C'est, après tout, il faudrait réfléchir aussi à ça, parce que pourquoi à ce moment-là il fallait absolument expliciter ces enjeux, à ce point-là, ces enjeux surnoïques, hein, je dis bien, de la construction d'objets. Alors c'est aussi un moment particulier où, d'un certain point de vue, la sociologie n'a pas gagné. Hein, on a quand même en face des essayistes à la noix, etc., etc. Il y a une bataille pour la scientificité à laquelle on est personnellement convié. Enfin, moi, je me vis comme ayant appris, au fond, à quitter Staline pour Bourdieu. Enfin, je le dis mal, bien sûr, mais enfin, c'est une façon de me faire comprendre. Autrement dit, non, c'est une boutade, n'ayez pas peur, je ne vais pas m'en prendre au maître. Mais effectivement, donc quand on fait cette conversion, on a peut-être plus besoin que quand on n'a pas à la faire d'expliciter les règles de la nouvelle religion qu'on embrasse pour aller vite. Je sais pas, hein, je voulais soumettre ça à la réflexion des uns et des autres, mais c'est vrai que c'est une vraie question qui n'est pas traitée dans les journées d'études.
Il y a peut-être un artefact de la journée qui consiste à, si on se base sur le métier de sociologue et on fait comme si le métier de sociologue était toujours aussi présent. Moi, je serais pour qu'on fasse l'histoire du retrait du métier de sociologue dans l'enseignement de la sociologie. Bon, sur Nantes, je ne donnerai pas de nom, mais j'ai des noms très précis pour savoir comment le métier de sociologue a cessé d'être enseigné au profit de faire raconter l'histoire de sa grand-mère, etc. Bon, sous prétexte que c'était compliqué, que les étudiants ne comprenaient pas, il y a eu un retrait du métier de sociologue. Bon,
pas systématique. Des règles de la méthode.
Il y a tout ça aussi. Hein, on se reporte sur l'histoire de l'enseignement de la sociologie avec les différentes générations qui arrivent. Bon, je ne saurais pas trop expliquer le truc, mais le métier de sociologue. Qui lit le métier de sociologue?
Ça dépend si tu veux dormir.
Il y a deux lecteurs du métier de sociologue.
Oui.
Non, je trouve que cet aspect de. Le débat qui s'engage, je trouve particulièrement intéressant, même si je l'ai eu vaguement à l'esprit quand j'ai écrit l'introduction de mon topo de tout à l'heure, qui était d'ailleurs lié à une réflexion de Bernard qui l'a repris là, quoi. C'était l'effet de la construction d'objets était daté, très très fortement daté, et que si je m'y suis intéressé moi d'emblée, on dirait de mon tout à l'heure, je pense que c'était pour partie pour des raisons personnelles, mais surtout beaucoup par rapport à un état d'esprit, on pourrait dire, dans le champ des sciences sociales tel que je l'ai découvert quand j'ai débarqué, quoi. Et donc, pour répondre à la question que Charles posait tout à l'heure, j'ai vraiment le sentiment effectivement que, quand tu demandais c'est quoi ce lieu-là, cette Assemblée Générale, alors je pense, pour reprendre le vocabulaire de Christophe, que c'est, comment dire, une niche écologique qui survit, quoi. Bon, voilà, j'ai le sentiment de ça, d'une niche écologique particulière, hein, où ce type de question a un intérêt, est un intérêt partagé, collectif, que tout, bon, voilà, on pourra en dire un peu plus, mais que, alors, pour des raisons étranges, à mes yeux, pour ce que je perçois de cet univers tel qu'il est aujourd'hui, ça s'est petit à petit perdu pour la plupart, pas tout le monde, il y a quelques heureuses exceptions, mais voilà, ça s'est éteint. Alors, je pense que là, il y a une vraie question sociologique autour de la question d'objets, qui serait faire la sociologie à la fois de l'apparition de cette question-là, comment, à une époque, c'était une question vitale, voilà, tout à fait essentielle pour des tas de gens, et ça l'est resté pour beaucoup, voilà. Et puis, comment, petit à petit, cette chose-là s'est diluée, s'est éteinte. Bon, j'ai bien quelques petites idées, mais je trouve que c'est un bel objet sociologique, oui, que en tout cas sur le champ intellectuel, que de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer.
Non, il me semble que une manière peut-être de répondre à la question, c'est de faire la sociologie du champ, c'est-à-dire au fond la question de la construction d'objets, ça faisait partie de la stratégie de subversion, oui, qui était celle des nouveaux entrants qu'on était à l'époque dans le champ de la sociologie, et de nouveaux entrants qui, enfin, pour certains comme moi par exemple, n'avaient absolument aucune légitimité vu le type de carrière qu'ils avaient fait auparavant. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est difficile à reproduire. C'est-à-dire le côté, voilà, un îlot qui... oui, un îlot résiduel, on pourrait dire. Hein, s'il y a quelque chose... Enfin, résiduel pour l'instant. Hein. Mais...
je suis moins pessimiste.
Quand est-ce que ce... Oui, mais la question, c'est quand se rejouera... gérer cette logique de stratégie subversive par rapport à que pourront porter de effectivement des nouveaux entrants dans le champ.
C'est peut-être la réponse.
Allez, ouais. Et quand on voit les conditions dans lesquelles les thésards sont aujourd'hui, c'est peut-être pas justement les conditions rêvées, non, mais aussi ça pose cette question-là, quoi, d'extrême insécurité. Bon, parce que s'il y a un sentiment qui nous habitait, c'était celui de la sécurité. Bon, c'est énorme. Autrement dit, on pouvait prendre des risques théoriques parce que il y avait une sécurité concrète. Bon, moi j'ai refusé 3 postes. Bon, je n'ose même pas le dire. Bon, non, mais ça compte quand même. Hein.
Oui, ce qui me semble très important dans ce que vous avez dit tous les deux ce matin, c'est qu'on voit qu'au-delà de la question épistémologique de la construction de l'objet, la construction de l'objet, c'est une production collective et c'est devenu une sorte d'emblème de la mouvance qui a contribué à s'approprier, à diffuser cette manière de faire la sociologie. Alors moi, je dirais que c'est encore plus que ça, c'est-à-dire que c'est devenu aussi un enjeu nodal de la structuration du champ ou des champs, en France en tous les cas, parce qu'il y a une exception française quand même dans ce domaine sur lequel il faudrait peut-être un petit peu s'interroger. Donc dans le cas de la France, j'ai l'impression... alors peut-être qu'il y a d'autres questions sur lesquelles il y a des affrontements, mais c'est quand même un enjeu central d'affrontement. Une petite anecdote, je ne vais pas donner le nom, mais vous allez tout de suite, certains d'entre vous vont voir de qui il s'agit. Bon, j'ai oublié les détails, mais je suis en train de faire un débat public, enfin ça doit être au Salon des Livres, avec quelqu'un qui est un personnage extrêmement important à l'époque de la science politique, puisqu'il est directeur d'Institut d'études politiques de Paris. Bon, il prend la parole, on est tous les deux. Moi, j'ai encore rien dit. Et il dit, ah oui, il dit que j'ai pas construit mon objet. Donc, vous voyez, ça se cristallise là-dessus, quand même. Donc, pourquoi ça se cristallise là-dessus? Et alors, expérience de vieux con, en ce qui me concerne, hein, de vieil ancien combattant, j'ai l'impression, peut-être à tort, enfin vous me le direz, que comme Gérard vient de le dire aussi, il est vieux con comme moi, quoi. On a l'impression que ça se perd, quand même. Quoi. Alors, ça se perd pas complètement. Hein, mais quand même, on a l'impression qu'on a, de manière dominante, c'est que ce réflexe de la construction d'objets, il se paye, quoi. Bon, alors, il se paye, à mon avis, vous me direz si je me trompe, d'un retour en force de l'empirisme.
Oui, oui.
Alors, c'est y compris, des fois, c'est un peu même douloureux. Hein, c'est-à-dire, par exemple, vous avez des gens que vous avez bien connus, vous avez biberonné à la construction de l'objet, éventuellement, ça a été votre thésard. Bon, vous les écoutez 10 ans après, pst, ça a disparu. Donc, pourquoi ça disparaît? Pourquoi ça disparaît? Qu'est-ce qu'il y a de coûteux dans la construction d'objets? Hein, quels sont les obstacles? Pourquoi il y a des obstacles? Et pourquoi il n'y a plus de profit? Alors, comme on vient de le dire à l'instant, il y avait des profits à un certain moment, à essayer de raisonner comme ça. Et pourquoi il n'y a plus de profit? Vous voyez? Bon, oui. Moi, je suis venu ici aujourd'hui parce que, voilà, je me pose ces questions, quoi.
Et est-ce que la question
auquel il est un peu difficile de répondre.
Est-ce que la pression du temps aussi sur les thésards joue aussi? Je ne sais pas. Moi, je suis quand même un peu moins pessimiste que vous là sur le. Je sais pas, Fabienne qui connaît l'atmosphère nantaise sur l'idée que cette idée de construction d'objets serait. C'est plus par des. C'est moins que cette notion a disparu que tout un ensemble de pressions, ne serait-ce qu'il faut finir vite, faut finir en 4 ans, en 5 ans, etc. Et que tout ça, bon, parce que nous, on y mettait le temps quand même. Bon, moi, je sais que au début, j'étais hyper angoissé par ce truc. Bon, mais c'est vrai. Bon. Donc c'est oui. Est-ce que
vous dites les étudiants comprennent pas ou comprendraient pas? Est-ce que ça veut dire que le profil des étudiants en 30 ans, 40 ans aurait changé? Est-ce que la massification entre guillemets de l'enseignement supérieur ferait que les étudiants aient beaucoup plus de mal à se réapproprier une œuvre et que c'est un prétexte qu'on utilise pour se débarrasser dans le cadre de lutte entre les uns et les autres.
Hein.
Est-ce que c'est pas mécanique, entre guillemets?
On invoquait le niveau des étudiants pour... là, à Nantes, ça s'est fait comme ça. Hein. C'est-à-dire, on a décrété, quelqu'un a décrété que le niveau n'était pas tel, hein, et qu'il fallait mieux être. Alors, justement, comme dit Patrice, l'autre face, c'est l'empirisme, c'est-à-dire lui faire raconter la vie familiale, l'expérience de la grand-mère, la sortie de la ferme. Alors, ça marchait très bien. Et là, vous êtes assuré d'avoir 16 sur 20 en plus, c'est quand même payant. Alors, en termes de gratification, on gratifie la non. Mais bon. Est-ce qu'il y a un cours? Ah non, il n'y a plus de cours d'épistémologie. Bon, par exemple, on osait dire qu'il y avait un cours d'épistémologie.
Hein oui, mais quand...
Mathieu Fabienne, il n'y a pas de cours d'épistémologie.
Il n'y a pas l'intitulé,
mais
un séminaire.
Séminaire?
En quelle année? En quelle année?
En quelle année?
En master. En master, oui, bien sûr. Voilà. Ah oui. Oui, donc, quand même, sur... Oui, un séminaire d'épistémologie, oui, tout à fait. À l'école des hautes études en sciences sociales, etc. Non, mais la question que vous posez est importante. En ce qui me concerne, je ne pose pas les problèmes de cette manière-là. Parce que il y a un implicite, là, c'est un problème de construction d'objets. C'est que les étudiants de l'époque comprenaient ce qu'ils lisaient. C'est-à-dire bachelor, machin, etc. Quand même, c'est un des gros problèmes des années 60. Un succès fou de Foucault, de Lacan. Qui s'est déjà lu Lacan?
Mais bon...
Je veux dire que là, c'est un peu un problème qu'on a déjà rencontré avec Gérard et Claude Polyak, qui est le problème des logiques de lecture. Alors, maintenant, il y a un effet pervers, enfin, et positif. C'est que même si, d'un certain point de vue, on pourrait faire peut-être la même chose... aujourd'hui beaucoup plus qu'on ne se l'autorise avec les étudiants qui sont dans les facs. Il n'est pas impossible qu'à l'époque, même si en réalité on était plus éloigné, ou nos étudiants étaient plus éloignés de bachelar, de la philosophie, parce qu'au fond c'était l'image, c'est la philosophie qui était là derrière. Quoi. Ça avait des effets, c'est-à-dire qu'on comprenait pas, mais du coup on apprenait quand même. Voilà, c'est tout le problème des grands mystères de l'enseignement supérieur, c'est que on peut hélas apprendre sans rien comprendre. Alors il y a un moment où ça donne le séisme à la noix, et puis il y a des moments où c'est quand même utile, mais c'est pas simple. Voilà, on ne va pas discuter de ça. Moi, je suis pour la suppression de l'école, donc pour les enfants, les collèges et tout. Parce que la posture scolastique dont vous parliez, il faut bien qu'elle soit apprise. Donc là, il y a un vrai grand problème derrière, pour moi, en tout cas. Mais c'est, voilà,
nous allons finir dire que sur Illich,
je veux pas le truc continuer. Massification, machin. Non, ça c'est déjà le mot massification. Hein, rien que le mot massification, c'est déjà un scandale. Parce que si je vous traite de masse, vous allez voir tout de suite que c'est pas agréable. Et je suis très étonné de voir que c'est une notion qui est utilisée aussi bien par la gauche que par la droite, la massification. Alors que ce soit utilisé par la droite, ça ne m'étonne pas, mais qu'à gauche et à l'extrême gauche, on parle de massification, je trouve que c'est curieux. Curieux parce que, d'un certain point de vue, là, il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle l'ethnocentrisme de classe.
Éviter démocratisation.
Il suffit de dire général, au moins, même si c'est très discutable, généralisation de l'enseignement secondaire supérieur. Au moins, c'est un peu plus descriptif que massification. Et curieusement, je me bats depuis des années, on ne peut rien faire. Hein. Alors là, ça passe pas. Hein. Ça, c'est impossible. Alors, si on veut vraiment faire le malin, il faut dire généralisation ségrégative de l'enseignement secondaire supérieur. Ça, c'est Merle qui dit ça, je crois, et Pro. Bon, enfin, voilà.
Bon, bien, voilà, nous allons devoir interrompre pour des raisons matérielles.